Le vendredi 26 avril à Lille, c'était l'intervention de M. Issa Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation du Mali, professeur de philosophie à l'Université de Bamako. Il est également auteur de deux livres. Le premier est « Silence, on démocratise ». Le deuxième, « Le festival des brigands ». Il va nous parler de la situation actuelle du Mali.
Il y a certes ces deux ouvrages-là. Le premier qui est intitulé « Silence, on démocratise », où j'essaie de parler un peu de l'histoire de ce qu'on a appelé le mouvement démocratique malien. C'est une histoire intéressante en soi parce que vous vous rappelez le contexte des années 90 où on a dit que c'est François Mitterrand qui a lancé, après la conférence de Bâle, le processus de démocratisation en Afrique. Bon, ceci ne prend pas en compte les luttes des populations locales sur le terrain. Et le cas malien, justement, va poser problème parce qu'il ne rentrait pas dans les analyses qu'on avait développées à l'époque. Parce que voici donc un processus qui a abouti au renversement d'une des dictatures les plus sanglantes de la sous-région, qui a duré 23 ans. Et ça a été une bataille populaire, une bataille aussi sanglante. Parce que si dans les autres pays, par exemple comme au Bénin, où on a assisté à une transition, que je dirais plus ou moins pacifique, d'une dictature militaire à un régime démocratique, au Mali, il a fallu des combats de rue qui ont été très violents, très sanglants. Et ce qui était étonnant à l'époque, c'est que c'est une libération qui a été réalisée par le fait d'un mouvement populaire, pas d'un coup de pouce initié quelque part, comme on a l'habitude, poussé en avant. Et donc c'est ce qui fait que ce processus-là était devenu intéressant, parce qu'on l'a estimé comme étant un cas exceptionnel en Afrique à l'époque. Et beaucoup de gens sont venus essayer de comprendre cette expérience. Le Malien était devenu subitement un modèle, le Mali un modèle démocratique achevé. Et au départ, ça posait beaucoup de problèmes parce que même la France était un peu froide par rapport à cette expérience malienne. Je me rappelle de l'époque, c'était Roland Dumas qui était ministre des Affaires étrangères qui disait qu'à Bamako se passaient des événements préoccupants alors qu'il y avait des combats des rues et que des gens mouraient lors de ces batailles avec une armée. Et donc, quand il y a eu le renversement de Moussa Traoré, moi j'ai fait partie du gouvernement de transition en tant que ministre de l'Éducation. Il y avait Atété à l'époque qui était le président donc, de cette transition. Mais là aussi, il faut rappeler que ce ne sont pas en fait les militaires qui ont réalisé le changement au Mali. C'était un mouvement civil. Mais déjà, il y avait des contradictions à l'époque dans ce mouvement civil. Dans ce mouvement civil, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des partis politiques clandestins qui, depuis le coup d'État de 1968, ont commencé à travailler dans la clandestinité, ont essayé d'organiser des mouvements de résistance, donc partis politiques clandestins. Et ce sont les militants de ces partis politiques clandestins qui se sont retrouvés aussi dans les luttes syndicales, dans les mouvements syndicaux, qui se sont retrouvés également dans les associations de tout genre. On a créé des associations pour la promotion des libertés publiques. On a créé des journaux, donc on est devenu des journalistes aussi occasionnels. On a créé des groupes de théâtre, donc ce fut aussi un segment qu'on a utilisé. Le cinéma aussi a été mobilisé. On a utilisé des associations de femmes. Donc ça veut dire qu'on a essayé de faire bouger tous les segments de la société pour créer cette dynamique populaire qui est parvenue à bout de la dictature donc de Moussa Traoré. Mais donc, un tel mouvement, bien sûr, avait ses contradictions. Et c'est parce qu'il y avait ces contradictions-là, finalement, que les militaires ont apparu pour prendre le devant de la scène. C'était une atmosphère bon enfant à l'époque, mais déjà les questions essentielles par rapport au devenir du mouvement démocratique se posaient. Par exemple, quelle va être la nature du nouveau pouvoir? Ce sont des questions qui ont été rapidement esquivées. On a dit on verra plus tard, on verra, on verra. Bon, finalement, au bout du compte, on s'est fait avoir. Et cela a permis de récupérer cette dynamique de lutte et donc d'essayer d'en faire un modèle. On a dit la démocratie malienne, c'est un modèle. Et je me rappelle le premier président démocratiquement qu'on a dit démocratiquement élu à Alpha Omar Konaré. On l'a présenté un peu partout comme une sorte de professeur de démocratie. Ses collègues africains l'appelaient le professeur de démocratie. On faisait un peu la leçon à tout le monde. On en était fiers, mais à l'interne, on savait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes. Bon, ces débats-là, on les étouffait et donc on les faisait taire pour présenter donc la démocratie malienne comme étant une démocratie parfaite, un modèle à examiner. Et c'est ce qui explique un peu le titre du premier volume, « Silence, on démocratise ». Donc là, bon, il faut éviter de poser toutes ces questions-là. Il y a un modèle qui est là, donc allons-y, allons-y, la démocratie est belle. Mais c'est un modèle démocratique qui a été importé, notamment sur le modèle français qu'on a copié dans beaucoup de domaines, même la constitution malienne, quand vous lisez la constitution malienne de 92, mais juste, ça continue toujours, c'est coupé-collé. Donc là où il y a France, on enlève, on peut en mettre Mali. Quand vous prenez tous les textes maliens, c'est pratiquement comme ça. Donc c'est les textes simplement qu'on a repris. Et à l'époque, on nous avait envoyé lors de la conférence nationale des experts français, des constitutionnalistes, des juristes. On a dit, bon, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, on a fait comme ça. Mais c'est une véritable catastrophe aujourd'hui. D'ailleurs, ça ne marche pas chez vous, à plus forte raison chez vous. Donc, silence en démocratie, essaie d'examiner ce parcours chaotique et contradictoire du processus de démocratisation en Mali. Au Mali, avec ses points forts, avec ses faiblesses, mais aussi en faisant apparaître certaines figures, parce que aujourd'hui notre jeunesse est en manque de repères. Donc je peux dire que ces deux ouvrages ont été écrits à l'intention de la jeunesse, parce qu'on s'est dit attention, le retour de la manivelle aujourd'hui est tel que certains donnent le sentiment que c'était mieux au temps de la dictature, parce qu'il n'y avait pas autant de désordre, de laisser-aller, d'insécurité, de corruption. Et donc la dictature était meilleure à la démocratie, c'est ce qu'on dit. Et ceux qui ont géré, les politiciens de cette époque-là, même, haussent de plus en plus le ton, disent Moussa Traoré, c'était bien, ce sont les démocrates qui sont venus tout foutre en l'air. Et que s'il y a aujourd'hui l'insécurité, c'est parce que la démocratie a détruit l'armée, a détruit l'État. Et donc, aujourd'hui, donc, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse, c'est la faute à vous, démocrates qui avez lutté contre cette dictature-là. Mais, donc, il y a ces figures-là, il y a ces rappels pour dire que cette période a été une période effroyable dans l'histoire moderne du Mali. Et qu'en aucun cas, cela ne saurait être une référence pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, Silence en démocratie parle de ça, de certaines figures, parce qu'on a perdu beaucoup de camarades. Les camarades sont morts. D'autres ont laissé beaucoup de séquelles. Donc, il y a eu beaucoup de souffrances dans cette période-là. Et le premier volume essaie de retracer cela. Le deuxième volume, intitulé « Le festival des brigands », parle beaucoup plus de ce qui s'est passé après, dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, en référence donc à des propos du premier président malien, Modibo Keïta, Modibo Keïta qui a dit un jour que quand les propriétaires deviennent des spectateurs, c'est le festival des brigands. Aujourd'hui, on peut dire que le Mali est devenu le champ d'action des brigands. C'est un véritable festival de brigands. Il y a des brigands nationaux, évidemment, qui sont les complices de cette situation où chacun essaie de prendre sa part dans le cadre de ce désastre généralisé, de cet affaiblissement de l'État. On peut même dire qu'il n'y a plus d'État, tellement la situation est devenue catastrophique. Il y a des brigands aussi régionaux, parce que ce qui arrive au Mali ne peut pas se comprendre si on ne fait pas un peu le tour des enjeux autour des pays voisins, notamment deux pays, le Burkina de Blaise Compaoré et la Mauritanie actuelle. Le chef d'État n'a pas encore changé. On a pu régler le compte de Blaise Compaoré, bon, mais les méfaits restent là. Parce que Blaise Compaoré, la Mauritanie, et le Burkina de Blaise Compaoré et la Mauritanie ont été la tête de pont de la France dans cette partie du Mali. Officiellement, la France est intervenue en 2013, mais déjà en 2010, elle avait commencé à poser les jalons de l'intervention, d'une intervention française au Mali. D'abord, en positionnant des forces spéciales au Burkina Faso, et deuxièmement, en construisant une base militaire à Nema, près de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Et c'est principalement de ces deux bases-là que la France va se projeter dans son intervention. Évidemment, il fallait trouver le prétexte et donner un habillage à tout cela. Et donc, on a diffusé dans la presse avec beaucoup d'insistance qu'il y avait une colonne djihadiste qui venait du nord et qui descendait pour Bamako. À l'époque, on avait estimé ce groupe-là à 500 bonhommes, lourdement armés. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment 500 bonhommes, même lourdement armés, peuvent franchir autant de distance, près de 1000 km, avec quelle logistique, venir occuper une ville de 2 millions d'habitants. Je ne sais pas comment ils allaient le faire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était simplement de l'arnaque. Et que, en réalité, donc, et puis on sait aujourd'hui que la date officielle de l'intervention française est une date qui a été truquée et que déjà les Français étaient intervenus avant cette date officielle. On sait aujourd'hui que l'ambassadeur de France à l'époque a dû chercher le président de la transition pendant deux bonnes heures pour lui faire signer une lettre qui avait été rédigée par la France pour demander l'intervention du Mali, et l'intervention de la France au Mali, pour donner donc un aspect légal à cela. Et d'ailleurs, le problème c'est que la lettre initiale qui avait été rédigée par le président de la transition demandait simplement un appui aérien, mais pas d'intervention au sol. Bon, bref, on se rend compte que c'est une affaire montée de toutes pièces. Et qu'en fait, qu'est-ce qui se passait à Bamako à cette époque? On était à la veille donc d'une sorte de révolution populaire. La gestion catastrophique de ATT à l'époque avait créé donc un désastre. D'abord dans la partie nord du Mali. Parce que ce sont les accords de 2006 signés entre ATT et les groupes rebelles sous le parrainage donc de l'Algérie qui avaient dégarni cette partie nord du Mali. Donc les casernes militaires qui existaient à l'époque, on les a repliées vers le sud. Et donc cela a permis donc à ces gens de s'incruster déjà dans cet espace. Il faudrait se rappeler que les premiers terroristes, les premiers djihadistes étaient essentiellement des trafiquants, notamment de marchandises. Ça a commencé par la cigarette. Iyad Egali était un trafiquant de cigarettes. Mokhtar Ben Mokhtar était un trafiquant de cigarettes. On le surnommait même Mister Marlboro. Ensuite, il y a eu des trafics d'armes et de munitions. Ensuite, le trafic d'otages. Quand on prenait des otages, on venait les planquer là. Si on les prenait au Niger ou ailleurs, on venait tout le temps les planquer dans cette partie du nord du Mali où il n'y avait plus d'armée. Et on se mettait à les échanger contre de fortes sortes d'armes. Et finalement, trafic de drogue. C'est devenu une zone de trafic de drogue. Et vous vous rappelez bien de cette histoire de ce Boeing 737 qui a atterri en plein désert, bourré de drogue, on a enlevé la drogue, on a brûlé l'avion, etc. Et puis jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a des petits avions qui atterrissent avec de la drogue et ça rapporte gros. Et en réalité, la multiplication des groupes armés et les bagarres qui s'en suivent, c'est une bagarre pour le contrôle des routes de trafic de drogue. Donc, il y a une économie grise dans cette région. La principale donne économique, c'est devenu la drogue. Et les jeunes s'y engagent parce que quand vous convoyez une cargaison de drogue, on vous dit, vous prenez la drogue à un point A, vous allez déposer ça à un point B, au minimum, vous empochez 1500 euros. Et si vous faites cela trois fois, non seulement vous empochez de l'argent et puis le véhicule vous revient. Donc, ça veut dire que beaucoup de jeunes se sont, dans la mesure où il n'y avait plus d'économie locale, l'économie locale a été détruite, les jeunes n'ont pas de perspective, donc s'engagent dans ce processus-là. Et c'est comme ça que la drogue est devenue un élément fondamental, donc, de la question dans cette partie nord du Mali, à tel point qu'il y a un quartier aussi aujourd'hui à Gao qu'on appelle Cocaine City, parce que tout le monde sait que ce quartier flamand neuf avec des villas cossues, c'est l'argent de la drogue. On sait aussi que dans ce circuit de la drogue, il y a des hommes politiques. Le maire de Gao est un trafiquant de drogue connu. Donc des hommes politiques sont dans la drogue. Il y a des militaires qui sont dans la drogue. Il y a des religieux qui sont dans la drogue. On parle de Allah, mais en réalité, bon, il y a beaucoup d'affaires sombres qui se trament. Donc dans cette histoire de drogue, il y a même des circuits organisés au niveau de certains chefs d'État de la sous-région. On sait que Blaise Compaoré était dedans, le nôtre était dedans. La Mauritanie aussi, on dit beaucoup de choses, jusqu'au Maroc, jusqu'à certains hauts gradés algériens. Donc la drogue est devenue un élément important. La question qui se pose, est-ce que même des pays occidentaux, on sait que les États-Unis financent pas mal aussi de guerres secrètes avec l'argent de la drogue. Ça a été le cas au Nicaragua, ça a été le cas en Iran, etc. La question qui se pose, est-ce que aussi les Français ne sont pas de plus en plus dans ce circuit? C'est une question qui se pose, ce qui est très commode parce que ça évite toute traçabilité budgétaire des sommes qui sont engagées pour mobiliser des forces spéciales et faire toutes sortes de coups fourrés dans la sous-région. Donc il y a cette situation de drogue qui se pose. Il y a donc aussi le fait que aujourd'hui ce qui se passe au Mali, pour raccourcir un peu les choses et permettre le débat, c'est qu'il y a un processus en cours tendant à imposer une sorte de décentralisation poussée au Mali. Les accords d'Alger signés en 2015 ont été en quelque sorte imposés au Mali. Même le pouvoir à l'époque n'en voulait pas. Les Maliens n'en voulaient pas. Parce que les Maliens ont très vite compris que si en 2013, ils avaient applaudi à l'intervention française en disant « Voilà, Papa Hollande nous a sauvés de la catastrophe », mais une fois donc dans la foulée de la libération du Nord Mali, quand l'armée française est arrivée avec l'armée, accompagnée de l'armée malienne aux portes de Kidal, les Français ont dit aux Maliens, à l'armée malienne, stop, vous ne rentrez pas à Kidal. Jusqu'à aujourd'hui, l'armée malienne attend. L'armée malienne n'est pas à Kidal. Le processus des accords d'Alger prévoyait donc une sorte donc de troupes mixtes chargées d'assurer la sécurité. Tout au plus, il y avait 200 militaires maliens qui devraient pouvoir rentrer à Kidal. Il y a moins de 100. Quand ils se sont présentés à Kidal en exécution des accords d'Alger, ils ont été cantonnés. Les rebelles qui contrôlent Kidal disent qu'il n'est pas question que des militaires maliens patrouillent à Kidal. Personne n'a rien dit, y compris la France. En début de ce mois, ils ont même fêté à Kidal l'anniversaire de l'indépendance de l'Azawad, ce qu'ils appellent l'Azawad. Le drapeau de l'Azawad est là-bas, l'indépendance de l'Azawad. On ne dit rien. Il faudrait se rappeler que la déclaration d'indépendance de cette partie de l'Azawad a été faite à Paris. Le MLRA a eu une représentation à Paris, avait une représentation au Burkina Faso, le temps de Blaise Compaoré, et en Mauritanie. La représentation en Mauritanie existe toujours. Et donc, jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre, enfin, on le comprend. En tout cas, que la France ne veut pas que l'État malien prenne pied véritablement à Kidal. Et on fait traîner le processus avec beaucoup d'arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route. Mais depuis que l'armée malienne a été empêchée d'entrer à Kidal, il y a un retournement de l'opinion publique malienne qui dit, cette France qui est venue nous aider, en réalité, elle n'est pas venue nous aider. Elle a des arrière-pensées. Quelles peuvent être les arrière-pensées de la France dans cette zone? Il faut remonter un peu plus loin, avant même les indépendances, pour comprendre que, déjà du temps du général de Gaulle, la France avait comme projet de créer un Sahara français, des États sahariens qu'ils appelaient Organisation commune des régions sahariennes. Et donc, de laisser aller les pays à l'indépendance, mais de garder cette partie du Sahara où le bureau de recherche géologique français, le BGRM de l'époque, avait dressé une cartographie précise de la zone où on savait qu'il y avait du pétrole, du gaz, de l'uranium, de l'or, des terres rares, beaucoup d'autres choses, et aussi de l'eau, parce que le Sahara, c'était une ancienne mer. Donc, la France n'a jamais voulu laisser. Et puis, il y avait aussi la base de Tessalit qui était stratégique. C'est un plateau surélevé, en plein désert, qui permet donc, quand on est à Tessalit, c'est comme si on est sur un porte-avions en plein désert, et qui permet de contrôler toute la zone. Et on est pratiquement à 2 heures de vol de toutes les capitales de la sous-région. Donc la France a toujours convoité cette base. Elle y était déjà au temps du colonialisme. Et c'est le gouvernement de Modibo Keïta qui avait demandé aux Français d'évacuer toutes les bases étrangères au Mali. Crime de lèse-majesté. Le même gouvernement de Modibo Keïta avait décidé de sortir du franc CFA et de créer la monnaie nationale. Deuxième crime. Troisième crime, ce gouvernement de Modibo Keïta avait décidé de prendre le contrôle des richesses nationales. Donc les entreprises à l'époque avaient été nationalisées. Quatrième crime de sang. Quatrième crime intolérable, le gouvernement de Modibo avait décidé d'une réforme de l'éducation, où il y avait toute une politique de changement de mentalité, de décolonisation culturelle. Bref, on comprend la suite que ce régime, on a monté les pays voisins, notamment le Sénégal de Senghor et la Côte d'Ivoire de Oufet-Bani, pour servir de tête de pont pour renverser ce régime par le coup d'État de 1968. Après, il nous a fallu 23 ans pour nous débarrasser de cette dictature-là. Bon. Bref, donc, les Maliens ont fini par comprendre que la gentille France jetait tout à coup le masque et montrait le vrai visage. Depuis lors, basculement de l'opinion publique, et ça va en crescendo avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la France qui était censée venir combattre le terrorisme et l'insécurité, faire reculer ce terrorisme et l'insécurité, si ça se trouvait dans la partie nord du Mali, c'est descendu vers le centre, c'est arrivé à Bamako, c'est même parti dans les pays voisins. Donc il y a au contraire une généralisation de l'insécurité. Pour ça, il y a les forces qu'il faut. Aujourd'hui, sur le théâtre d'opération dans la zone, il y a près de 30 000 soldats. Et les djihadistes et autres sont évalués à peu près, toutes tendances confondues, à 3 000 hommes. 30 000 contre 3 000. Pourtant, c'est des armées bien équipées. Il y a des hélicos, des avions, des drones. Et puis, il y a des blindés. Il y a toutes sortes de moyens qui existent. Mais on n'arrive pas à bout de ce phénomène. Et pire, ça s'aggrave. Et pire, récemment, on vient massacrer des populations civiles au nez à la barbe des forces internationales. Et il n'y a pas de réaction. Et dernièrement, la France a commencé la construction dans le Gourmand d'une base militaire. C'est la plus grande base militaire de la sous-région. Et cette base militaire va permettre à la France d'être à un endroit stratégique qui va lui permettre donc d'avoir l'œil sur plusieurs pays à la fois. Parce que dans le Gourmand, c'est une zone qui vous permet de regarder non seulement de l'autre côté du Burkina, de surveiller un peu ce qui se passe au Niger, et puis évidemment le Mali, puisque ça se trouve en territoire malien, mais aussi la Mauritanie. Donc c'est une position stratégique, ça veut dire que la présence militaire française est en train de se renforcer au Mali. Et malgré tout, l'insécurité est en train de s'élargir. Donc on a vu que dans le cadre des derniers massacres qui ont eu lieu au Gossagou notamment, près de la frontière burkinabé, on a constaté que, évidemment, la littérature officielle accuse les chasseurs Dogon, mais dès le départ, ces chasseurs Dogon ont dit que non, ils ne sont pas responsables de ce massacre-là. Donc d'où est-ce que ça peut venir? Grand point d'interrogation. Ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que ces différentes attaques qui se font là, il y a un modus operandi plus ou moins semblable. D'abord, ce ne sont pas avec les armes traditionnelles que portent les associations de chasseurs. Ça se fait avec des armes de guerre et parfois des armes modernes. Il y a eu quelquefois des roquettes qui ont été utilisées. Donc, ce n'est pas des chasseurs traditionnels qui savent manipuler des roquettes. Ensuite, on sait aujourd'hui que parmi les assaillants, souvent ils viennent à moto ou avec des voitures, et puis à 7, à 10, ils sont des petits groupes. Et quand ils font les attaques, ils disparaissent. Et là-dedans, et quand ils attaquent un coin, ils tuent tout ce qu'ils trouvent, les hommes, sans discernement, des vieilles personnes, des enfants, des femmes, etc. Ils brûlent les greniers, ils tuent les animaux. Ça veut dire que c'est une zone qui devient un espace, subitement un désert. On rase tout. La question que beaucoup de gens se sont posées, c'est de savoir, est-ce que des gens qui ont cohabité ensemble des siècles et des siècles durant peuvent être capables de telles atrocités sur leurs propres concitoyens? On s'est rendu compte que parmi les assaillants, les gens souvent parlaient une langue qui n'est pas la langue du milieu. Donc de plus en plus, des hypothèses sont formulées pour dire que souvent ces attaques-là sont principalement le fait de mercenaires qui viennent d'ailleurs. Des hypothèses sont faites, notamment à partir du Burkina, où il y a eu des éléments de l'ancienne rébellion qui étaient plus ou moins téléguidés en sous-main par Blaise Compaoré. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de déstabilisation toujours en sous-main de Blaise Compaoré? Est-ce que ce ne sont pas une partie de ces éléments qui remontent jusqu'au Mali? Il y a eu des attaques, notamment celle de Guirée. Là, on sait que c'est des groupes qui viennent donc de Mauritanie, parce qu'à la frontière Mali-Mauritanie, il y a la fameuse forêt du Ouagadou. Donc, ils viennent de Mauritanie, ils font des attaques, après ils se replient en Mauritanie. Curieusement, il n'y a jamais d'attaque en Mauritanie même. Et la Mauritanie ne bouge pas. On sait très bien qu'il y a un deal entre la Mauritanie et ces terroristes. Comme il y avait dans le temps un deal entre Blaise Compaoré et ces terroristes, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et quand on connaît la configuration des villages dans le centre du Mali, on sait qu'en réalité, il n'y a pas de village purement Dogon, de village purement Peul, de village purement Bamana. Tous ces villages-là sont des villages à visage multi-ethnique. Si on prend le cas de Ogossagou, ce n'est pas un nom Peul, c'est un nom Dogon. Donc pourquoi à Ogossagou, on serait allé tuer uniquement des Peuls? Évidemment, il y a certains Dogons qui disent que non, à Ogossagou, on parle des Peuls, mais aussi il y a eu des Dogons qui ont été tués. Donc problème. Et l'armée malienne est partie ramasser quelques pauvres airs qui avaient été blessés, les présenter comme étant des suspects. Mais en réalité, ce sont plutôt des victimes. Donc, qui sont les forces cachées derrière ces différentes, ces différentes agressions, grand point, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de stratégie du chaos qu'on est en train de dessiner dans la sous-région, ce qui expliquerait bien les choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu récemment des attaques à la frontière du Ghana. Donc le Ghana commence à être touché, le Togo aussi commence à être touché, le Bénin aussi commence à être touché. Est-ce que ces groupes djihadistes-là ne sont pas en train de s'étendre jusque dans le golfe de Guinée? Et d'où viennent-ils? Ce qui expliquerait un peu la blague de Lavrov par rapport donc à la France quand il dit « Mais les Français font croire qu'ils combattent les terroristes au Mali, mais ce sont les mêmes terroristes qui protégeaient en Syrie, qu'ils ont utilisé en Syrie contre Assad, qu'ils ont utilisé en Libye pour renverser Kadhafi, et aujourd'hui qui sont au Mali. » Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un désamour très prononcé des Maliens par rapport à la présence française, ce qui explique les manifestations qui se font à Bamako qui demandent le départ des troupes françaises. Et la dernière a été organisée le 5 avril dernier, où certains évaluent à près d'un million de personnes dans la rue qui sont venues dire donc à bas la France, demandent le départ des troupes françaises et des Nations Unies. Parce que depuis qu'ils sont là, on n'a plus la paix. Au contraire, on est dans l'insécurité généralisée. Donc, il y a les mêmes phénomènes que l'on sent monter au Niger. Il y a des manifestations anti-françaises au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, où il y a donc ce ressentiment anti-français qui intéresse, même au Tchad, monter. Ça veut dire donc que de plus en plus, les populations sont en train de chercher à comprendre et de plus en plus, ils indexent quelque part la responsabilité de la France. Évidemment, la France a beau jeu de dire qu'il n'y a pas que les Français qui sont intéressés par les richesses minières, il y a aussi les Chinois. Effectivement, il y a des militaires chinois dans l'aménagement, mais les militaires chinois ne sont pas des troupes combattantes, ce sont des ingénieurs et des médecins. Évidemment que les Chinois sont intéressés par l'uranium qui est dans le nord du Mali, probablement par le pétrole et le gaz, puis des tas de métaux qui existent dans la zone. Mais si vous vous rappelez du nom de code de la première intervention française au Mali, c'est Serval. Le Serval, c'est un animal qui vient, qui urine un peu partout, comme pour marquer son territoire et signaler aux autres, attention, ce territoire est occupé, il y a un propriétaire déjà, faites attention. Donc, on crie aux Chinois, alors que soi-même, on a des intentions, parfois pas très loin. En tout cas, c'est la situation actuelle. Ce qui complique davantage la situation en Mali, c'est la montée aussi
pas seulement au nord, mais au centre même, à Bamako, des mouvements religieux. Cela remonte aux années 2010, quand il y a eu le vote de la loi sur le code familial, c'était au temps de ATT. Et ce nouveau code familial accordait des droits nouveaux aux femmes, et les religions ont protesté. Ils se sont mobilisés. Ils ont réussi à faire reculer le gouvernement et à annuler cette loi. Et depuis lors, il y a eu une montée en force de ces religieux-là. Évidemment, entre-temps, la classe politique, les partis politiques se sont complètement discrédités et n'arrivent plus à mobiliser grand monde. Donc aujourd'hui, ce sont les religieux qui mobilisent et les partis politiques sont à la traîne derrière les religieux. Et n'eût été l'intervention française en 2013, s'il y avait eu les élections après ATT, ce sont les religieux qui l'auraient eu un pouvoir religieux. Mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, ils sont dans une dynamique de conquête du pouvoir. Leur leader, Mahmoud Diko, menace d'ailleurs le président, dit « Si vous ne faites pas ce que nous vous demandons, nous allons mettre un imam au palais de Koulouba, Bamako. » Il le dit clairement. Et aujourd'hui, il prend des accents nationalistes. Il est un des plus violents par rapport à la présence française. Donc il joue sur la fibre nationaliste des Maliens en demandant le départ de la France et des troupes étrangères. Et dans ses discours, il dénonce avec violence l'impérialisme français. Mais il se tait sur un autre impérialisme, qui est l'impérialisme arabo-salafiste. Et notamment sur ses bailleurs de fonds, les pétromonarchies du Golfe qui sont derrière lui. Quand on réfléchit un peu, on voit qu'il y a une collision entre ces deux impérialismes. Ils peuvent se chamailler des fois. Bon, mais ils ont le même combat stratégique. Et il n'y a qu'à les voir à travers les commerces que la France entretient donc avec l'Arabie Saoudite et le Qatar notamment, etc. Les ventes d'armes. Les Américains, pareil. Ça veut dire donc qu'ils ont les mêmes visées géopolitiques, parce que l'Arabie Saoudite a acheté des terres agricoles au Mali, essaie d'acheter des terres agricoles au Mali. Le Qatar est intéressé par le pétrole et le gaz malien. Je pense qu'à un moment, il s'était associé donc, il me semble, à des Italiens, en ce qui concerne l'acquisition de certains blocs. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, ce qui se passe au Mali. Donc, le projet final des accords d'Alger qui explique les dernières pressions qui sont exercées sur le Mali, parce que le Conseil de sécurité a mis en demeure l'État malien dans des délais assez courts pour voter ce projet de constitution. En fait, en quoi consiste ce projet de constitution? Le risque majeur, c'est que ce projet de constitution veut une décentralisation poussée, la création de nouvelles régions où ces régions vont être remises à des minorités, à une minorité ethnique, en l'occurrence Touareg. Alors qu'il y a des communautés, les communautés non plus nombreuses sont des communautés noires, notamment les Songoï, qui vivent sur ces espaces-là. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, en tout cas, il y a une lame de fond où il y a un réarmement de ces populations noires dans le nord du Mali, qui voient un peu cette partition programmée qui est en train de s'installer progressivement et qui sont déterminés de plus en plus à ne pas se laisser faire. Donc on risque d'entrer dans une guerre de violence généralisée qui va aggraver la situation à Bamako. Alors que l'alternative par rapport à ces forces religieuses-là est faible. Parce que les démocrates se sont divisés. Et que les forces progressistes n'arrivent pas pour des tas de raisons. Je pense que vous en savez quelque chose par rapport aux divisions que vous connaissez aujourd'hui, ici aussi en France, par rapport à cela. Donc la situation est telle qu'il y a de graves inquiétudes par rapport à l'avenir. quelle alternative? Nous réfléchissons à ça depuis longtemps. Et depuis la chute de ATT, nous avons été les premiers à dire que la situation au Mali est tellement dramatique qu'il nous faut des assises nationales entre Maliens. Il faut que les Maliens se parlent. Et que les solutions aux problèmes du Mali, ça ne peut venir que des Maliens eux-mêmes. Nous avons lancé un certain nombre d'idées. Aujourd'hui, tout le monde parle de concertation nationale. Même le pouvoir qui avait rejeté ces concertations nationales, la CEDEAO qui les avait rejetées, la France qui les avait rejetées, tout le monde dit, bon, concertation nationale. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la concertation nationale? C'est là donc que nos analyses sont différentes. Le pouvoir veut faire démarrer ces jours-ci ce qu'il appelle concertation nationale. Mais qu'est-ce que leur concertation nationale? Il s'agit de se coopter entre élites au niveau de la classe politique ou de ceux qu'ils appellent les forces vives. Ils se désignent entre eux, chacun vient avec ses représentants. Ils parlent au nom du peuple, au nom des populations. Ils décident de quelque chose, ils se mettent d'accord, comme par le passé, comme lors des conférences nationales. Nous nous disons que ce schéma ne va rien régler du tout. Au contraire, nous disons depuis un certain nombre de temps, il faut reconstruire, refonder l'État malien et la démocratie malienne à partir d'un processus qui va de la base, en mobilisant les populations, en faisant la force essentielle de cette dynamique du changement. Et c'est à travers ces assises nationales qu'on va poser les problèmes fondamentaux du pays et esquisser les solutions. Et en même temps, profiter de cette occasion pour faire émerger un nouveau leadership. C'est ce processus qui est seul capable, à notre avis, de donner une espérance au Mali. Évidemment, le contexte international est tel qu'il ne faut pas se faire d'illusion. Ce qui se passe au Mali se situe dans un cadre géopolitique et géostratégique mondial. Aujourd'hui, nous avons un système mondial libéral qui est en crise, qui est productrice de conflits, de guerres, d'agressions. Et c'est cela qui explique pourquoi le monde est en feu, pourquoi le Mali est en feu, et que ce feu est en train de se répandre un peu partout. Donc il est important de construire des solidarités fortes au niveau de nos pays, des populations qui luttent, avec aussi ceux qui luttent en France et en Europe et ailleurs, pour pouvoir construire un monde nouveau, plus juste, plus soucieux du devenir, donc, des populations. Donc, c'est cet enjeu fondamental-là qui est le nôtre, qui est le défi, qui est notre défi l'autre. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, il est bon de venir ici expliquer un peu ce qui se passe chez nous, parce que les médias ne s'en font pas suffisamment les échos. Vous en savez quelque chose aujourd'hui. Mais il est bon donc vraiment de diffuser cette information, de la partager et de voir quelles sont les solidarités susceptibles d'être construites par-delà les mers qui nous séparent. Et je dis souvent aux gens, malgré la distance, malgré les différences, nous avons le même destin, parce que nous sommes confrontés à la même réalité, qui est la domination du capital international. Et ce capital international, donc, n'a pas de visage. Il est devenu inhumain et il n'a pas de considération humaine. Il place le profit au-dessus de tout. Et c'est cela qui explique les drames que nous vivons aujourd'hui dans nos pays. Imperial Ben Sabas, Africa Music. Écoutez Tonton JB. La pipe, pipe, la pipe, pipe, la pipe, pipe, la pipe. Allez.